pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
On parle souvent des fugues d'adolescents, des évasions de prison, des maris qui descendent acheter des allumettes et ne reviennent jamais, de ces aspirations irrésistibles à la liberté, désir de fuir à tout prix, de sortir de l'emprise, de l'étreinte, de la famille, de la détention. Mais on parle moins des fugues de personnes âgées, des vieux qui se font la malle de leur maison de retraite pour qu'on arrête de les traiter comme des enfants, pour redevenir des acteurs de leur vie ou juste pour sortir. Ainsi, en juin 2014, l'histoire est connue, Bernard Jordan, un ancien officier de la Royal Air Force, s'est taillé de sa maison de retraite. En douce, et malgré la défense de ses aides-soignantes, à 89 ans, il s'est débrouillé pour rejoindre un bus de vétérans qui se rendait à Ouistreham. Après 7 heures de traversée de la Manche, il a assisté aux commémorations du débarquement, chanté et dansé avec ses anciens copains. Puis il est rentré, il s'est fait disputer, mais a assumé, dit-il, les conséquences de ses actes. Une certaine Miss Sellers, dans le Londonderry, en Angleterre toujours, s'est aussi échappée de son hospice où elle habitait un beau jour de juillet de cette année. En venant lui rendre visite ce jour-là, son fils n'a trouvé qu'une chaise roulante vide à la place de sa mère de 80 ans. Après l'avoir cherché un peu partout dans la maison et dans la ville, il a retrouvé sa respectable mère dans un salon de tatouage en train de se faire graver un cœur sur le bras gauche pour faire comme sa petite fille. C'est bien sûr sans parler des fugues liées à la maladie, un risque qui est alors traité sous un aspect technologique, digicode, bracelet anti-fugue, géolocalisateur, signaux sonores, voire contention architecturale ou physique. Mais comme nous l'explique un petit guide à l'égard des soignants en EHPAD, c'est-à-dire ces établissements d'hébergement pour personnes âgées, l'approche individuelle devrait être privilégiée. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, 3 fugues, 3 tentatives d'évasion de 3 lieux d'enfermement. C'est jusqu'à 14h sur France Culture par Léa Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
138-496Q, c'est le premier. Il date d'il y a 30 ans, on l'oublie jamais. J'avais 18 ans à l'époque. Et on m'a donné un numéro d'écrou. Vous êtes le 138-496Q. Vous êtes plus rien. Vous êtes un matricule. Ah non. Non. C'est impossible. Pour moi, c'était impossible. 4 ans après, je me suis évadé. La première évasion que j'ai faite, c'était à 24 ans. C'est pas n'importe qui s'évade. En fin de compte, c'est un état d'esprit. C'est une révolte, c'est une insoumission, c'est une façon de voir la vie, quoi. Voilà, l'homme est fait pour être libre, je pense. Et l'enfermer, c'est la pire des tortures. Là où il y a des murs, il y a des gens qui essayent de passer. C'est comme aujourd'hui, les réfugiés, ils essayent de passer des grilles. Je pense qu'on essaie d'échapper à ce qui est insupportable. Et la prison est insupportable. Quand on est enfermé dans une pièce 24 heures sur 24, qu'on sort en promenade et dans cette promenade on est enfermé. Voilà, je veux dire, on n'a plus de perspective. Et l'image que j'avais dans la tête, c'est le loup qui court dans la steppe, quoi. Que personne peut. J'ai besoin d'un horizon. J'ai besoin de voir loin.
Comment ça s'est passé votre évasion? Comment est-ce que vous l'avez construite en 94?
Ah, c'est un travail de longue haleine, mais disons qu'il faut d'abord trouver la faille. Une faille. Il faut trouver le point faible de la prison. Et j'ai mis des semaines, mais j'ai trouvé. C'était de faire ça un jour férié et la nuit. Parce que c'était un sous-effectif. Mais il fallait trouver la solution de faire ouvrir la porte la nuit. Et j'avais remarqué, avec une ampoule grillée, que les surveillants, pour des raisons de sécurité, venaient changer l'ampoule parce qu'ils devaient nous voir quand ils allument la lumière à l'intérieur. Donc, il fallait qu'ils viennent à plusieurs et qu'ils ouvrent la porte et qu'ils changent l'ampoule à chaque fois qu'une ampoule était grillée. Donc, c'était ça le point faible. Pour des raisons, logistiques et stratégiques, c'était plus facile de faire une évasion à deux. En prison, il y a plein de détenus, mais il y a très très peu de gens qui ont la force de l'évasion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont le ressort cassé. Ils rêvent d'évasion, mais ils en sont incapables. Ça veut dire qu'au pied du mur, ils ne le feront pas. Et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse passer à l'acte, qui ait la force. J'ai eu du mal, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé un candidat qui s'était déjà évadé et qui avait ce truc en lui. Ce besoin de tout risquer, de risquer sa vie pour pouvoir partir. J'ai choisi une date symbolique et j'ai choisi le 9 octobre. 94, mais le 9 octobre, c'est la date anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Donc je lui dis, on partira le 9 octobre. Et nous, on ne nous tuera pas à l'intérieur. Voilà, j'ai fait rentrer du matériel, du fumigène, des armes, un couteau, etc. Enfin bon, un pistolet. Et donc, le jour où j'ai récupéré le matériel, c'était le samedi. Et donc, le samedi soir, on y est allé, quoi. Et donc, on a grillé l'ampoule. Tac. On s'est habillé. Et on les a attendus. Avant de passer à l'action, il y a un moment. Je ne sais pas si c'est de la concentration ou il y a un moment où c'est suspendu, quoi. Le temps. Et le silence. On est à l'orée de notre destin, en fait. En passant la porte, peut-être que 2 minutes après, on va se faire flinguer par les miradors. Ou peut-être qu'on va être libre. Et là, c'est le moment, moi je le symbolise comme ça, où on mise, comme sur une partie de poker, on mise tout. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Je veux dire, on s'est entraîné pendant plus d'un mois physiquement et mentalement aussi. Ça veut dire que on faisait en sorte de mimer l'action qu'on allait faire. Donc on a répété en fin de compte les gestes, comme les pilotes d'avion qui font de la voltige. C'est un peu ça, c'est un peu la même chose. Et une fois qu'on était au point, on tape. Si on n'est pas prêt, ça marche pas. Si on n'est pas persuasif, ça marche pas. Si on n'est pas déterminé, ça marche pas. Parce qu'en fin de compte, c'est pas le fait d'avoir une arme qui compte. C'est la détermination. Ceux d'en face, quand ils voient la détermination, ils se disent, vaut mieux les laisser passer parce que ça va mal tourner. Je préfère mourir sur le mur que mourir en prison. C'était ça mon objectif. Et si ça passe, ça passe. La nuit, c'est que le premier surveillant qui a les clés, mais il a toutes les clés. C'est ça le point faible. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir toutes les grilles jusqu'à l'entrée. Donc le surveillant passe, il n'y a pas de lumière, ils appellent une équipe avec le gradé, ils ouvrent la porte, boum, on défonce la porte, on sort, mon pote il prend le gradé en otage, et on a passé une quinzaine de grilles. Et on tombe sur des surveillants, mais à chaque fois je jette des fumigènes, on leur dit qu'on est armé, etc. Donc ils ne savent pas maîtriser. En plus c'est la nuit. Ils s'y attendaient pas. Parce que les évasions, ça se passe la journée en général, où le type il essaie de passer un mur. Mais nous, on les prend vraiment à revers. C'est-à-dire qu'on fonce directement dans le tas et de la manière la plus difficile, c'est-à-dire en prise d'otage. Et jusqu'au moment, on arrive à la dernière porte, c'est-à-dire la grande porte de la prison. Donc on a traversé toute la détention. Le surveillant qui est dans le sas blindé, qui contrôle l'entrée de la prison, s'enferme. Donc il est en sécurité. Mais les autres, ils sont dehors. Et là, c'est toujours pareil, c'est de la psychologie. Il faut que le surveillant qui a les clés en fait, de la grande porte, il faut qu'il craque. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On rassemble les surveillants devant un mur, et mon pote, il lui montre le calibre, il lui dit « Regarde ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par les jambes. » Et il pointe le pistolet vers les autres. Et le type qui est à l'intérieur du sas, il regarde ses collègues, il voit le pistolet... J'ai l'impression que ça dure mais une heure, quoi. Et à un moment donné, il lève les bras au ciel et il dit non, 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 non. Et il ouvre la porte. Et moi, je rentre tout de suite dans le sas de sécurité. Alors, il y a une sorte de pupitre comme ça et il y a les boutons qui ouvrent les portes. Et j'appuie sur le bouton et c'est moi qui ai ouvert la grande porte. Clac ! Oh, qui s'ouvre. Et c'est ça, la liberté. On sait qu'on va sortir. Et on arrive dans un no man's land entre 2 miradors et il y a une voiture. Il y a la voiture du directeur. Dans le sas, quoi. pour que la grille derrière nous s'ouvre, il faut que la première, celle que j'ai ouverte, se referme. C'est le système du SAS. Donc je suis obligé de prendre un otage avec moi. Donc je prends un gradé avec moi et je le mets à l'arrière de la voiture et mon pote il prend le volant. Et il y a les deux miradors. Si on reste entre les deux, on peut se faire flinguer à tout moment. Et je préviens, je dis au type, je dis voilà, ouvre la dernière grille et après, tu nous laisses partir et je relâcherai ton collègue. On est allé dans la voiture, la première porte s'est refermée et j'ai entendu clac et la grille s'est ouverte. Mon pote fait une marche arrière et on recule à fond, tête à queue sur le parking et on file. À ce moment-là, j'ai une crise de rire. Et je dis à mon pote, on est libre. Et on a une crise de rire. Et j'ai des larmes tellement je rigole. Alors, on était dans le feu, hein, parce que, attention, hein, l'alarme, elle avait sonné. Ça veut dire que les flics étaient au courant. Donc, on prend la voie rapide. Et après, on est sorti, on a abandonné la voiture. J'ai laissé l'otage dans la campagne. Et là, on s'est retrouvés. Et ça, c'est la nuit la plus extraordinaire que j'ai sentie. Alors, on était dans une sorte de campagne, de lande, comme ça. Et je me rappelle du ciel étoilé. Parce qu'en prison, on ne peut pas voir le ciel. Et mon pote, je le vois courir comme ça, puis embrasser les arbres. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, mais ça fait 15 ans que j'ai pas vu un arbre. Il embrassait les arbres. Et moi, je regardais le ciel et je voyais la Voie lactée. Dans la nuit noire, la Voie lactée. Je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est ça la liberté. C'est physique, c'est une sensation. Je dirais pas que c'est une drogue euphorisante. C'est plus que ça. Et après, on a marché, on a réussi à s'échapper et on s'est retrouvé en cavale pendant quelques mois. Ça m'a appris une chose, que tout est possible. Tout est possible, vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait 25 ans de détention en tout. Et aujourd'hui, je suis libre, j'arrive à penser, j'arrive à réfléchir, je fais plein de choses intéressantes. On arrive à s'en sortir. Mais parce que ça, c'est l'évasion qui m'a appris ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je crois qu'on l'a en nous dès qu'on est jeune. On fuit, on part de quelque chose qu'on n'accepte pas, qui nous plaît pas. Et je crois qu'il faut pas hésiter, faut le faire. Faut pas dormir, quoi. On vit qu'une fois. Évade-toi, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans. Quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup fugué. Et ce qui est assez étrange, c'est que ça s'est plus ou moins retourné contre moi, puisqu'au bout d'un moment, je pense que mes parents en avaient tellement marre que je m'en aille tout le temps et que quand je sois là, je dise tout le temps que j'ai envie d'être ailleurs, qu'ils ont décidé que peut-être que je devrais être ailleurs si c'était vraiment ça que je voulais. En tout cas, c'est tombé à une période où mes parents se sont séparés et très vite, je suis allée vivre chez ma mère. Et il y a eu ce jour après plusieurs engueulades assez fortes où je suis rentrée et la porte était verrouillée de l'intérieur. J'ai frappé et elle n'ouvrait pas. Je crois qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si je l'ai appelée ou si elle me parlait de l'intérieur et pendant que j'étais de l'extérieur, mais en gros, elle me disait que c'était plus chez moi en fait, qu'il fallait que je parte. Et j'ai dormi devant la porte. Il faisait très froid, c'était en hiver. Et en fait, elle m'a envoyé des textos, très longs, pour me dire que j'étais plus sa fille et que c'était plus la peine de rentrer, en fait.
Vous aviez quel âge ?
Je crois que j'étais en première, donc je devais avoir 16 ou 17 ans. En fait, je traînais avec beaucoup de gens qui vivaient dans des squats, j'allais à beaucoup de rêves parties. Des fois, je rencontrais des gens et on partait en stop dans d'autres villes. On voyageait, entre guillemets. On trouvait des maisons abandonnées, on trouvait des maisons vides où on dormait dehors, où on rencontrait d'autres gens et puis on partait, en fait. J'avais les cheveux rasés, j'avais une crête à un moment qui était rouge. Et j'avais plein de piercings partout. J'avais des rats, des petits rats. J'avais une écharpe et j'avais des rats dans mon écharpe. J'en avais trois. J'avais souvent donc mon énorme chien qui m'accompagnait, qui est un chien que j'avais trouvé dans la rue et qui est à moitié Rottweiler et à moitié... Enfin, c'était un chien très atypique, mais énorme et qui pesait plus que moi, donc j'avais absolument aucune autorité sur lui. Je me souviens toutes les fois où j'étais toute seule dehors, heureusement que j'avais mon chien, parce qu'il grognait dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, et je pense que ça me protégeait beaucoup. C'était la survie, hein, quand même. C'était plus du tout comme mes premières fugues où je partais pour un garçon ou pour une fête. Là, c'était chaque jour trouver un endroit où dormir, toujours faire attention avec qui j'étais. Et j'avais envie d'être complètement hors de la société et de vivre complètement autrement. Et c'est pour ça que je pense que je fuyais, que je cherchais d'autres manières de s'exprimer, d'autres manières de vivre. Et tout ce que je trouvais, c'était des choses très sombres, des univers très glauques, où une fois que les concerts et les fêtes étaient finis, en fait, le reste était vraiment pas du tout empli de joie et de bien-être, mais du reste, en fait. Et ça contredisait totalement l'idéal que j'avais, je sais pas, de trouver une communauté et de trouver quelque chose de joyeux, en fait.
Comment vous avez mis fin à cette fuite ?
J'ai écrit une lettre à mon père pour lui demander si je pouvais revenir à la maison pour passer mon bac. J'avais envie d'arrêter, il y avait eu trop de choses sombres qui s'étaient passées, j'avais envie de faire des études et on a fait comme si de rien n'était. Mais de toute manière, ils ont toujours fait comme si de rien n'était. Hein.
J'ai fait une fugue à 18 ans plus un mois. J'étais danseuse classique et étudiante. C'était l'année de mon bac. J'ai travaillé beaucoup, j'ai mangé mal. Je sortais de la danse en nage et je suis tombée malade.
Quelle maladie ?
La tuberculose. Donc, ben voilà, je me suis retrouvée au sanatorium au mois d'octobre, donc tout de suite après la rentrée scolaire de terminale. J'étais tellement bien touchée que ben, on a été obligé de me mettre en isolement et donc j'avais pas le droit de voir qui que ce soit. On voyait que les infirmières ou le docteur qui prenaient donc des masques. Et on avait une perfusion tous les matins et des piqûres et puis des antibiotiques trois fois par jour. Début janvier, ça y est, j'allais mieux, je recommençais à m'alimenter normalement. J'ai eu le droit donc de sortir une demi-heure dehors. Une demi-heure, c'est court, quoi. On ne peut pas aller très très loin. Donc, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais dans le premier troquet que je trouvais. Donc un jour, j'avoue que je me rappelle plus trop comment ça s'est fait, mais j'ai vu un grand mec, bouclé, en habit de ski. Il était au bar, il buvait un café. On a commencé un petit peu à parler. Il m'a dit qu'il habitait là, dans le village. Je me rappelle plus très bien comment il s'appelait, mais pour la petite histoire, on va dire Jean-Philippe, parce que c'est un nom composé. Je sais pas comment ça s'est fait. Il m'a donné son adresse. Il m'a dit, si un jour tu sors du Sana, que t'as pas envie d'aller au café, tu peux venir prendre un café chez moi, si j'y suis. Parce que j'y suis pas souvent. Et puis donc, un jour, je suis sortie du sanatorium. Et je me dis, j'ai plus envie de rentrer. Je l'avais prémédité parce que j'avais pris ma réserve de médicaments pour la semaine, parce qu'ils nous donnaient des réserves de médicaments. Au début, je ne savais pas trop si j'allais continuer les médicaments. Et puis après, l'instinct de survie a fait que j'ai pris mes médicaments. Parce que c'était quand même un peu particulier, cette fugue. Je n'étais pas complètement guérie, il fallait que je reste normalement jusqu'au mois de juillet. On était en janvier, donc c'était quasi... pas vraiment un côté suicidaire, mais... une manière de se bagarrer et de faire une épreuve face à la mort. Certainement. Et puis à 18 ans, on n'a jamais peur de la mort. Et moi, j'avais pas peur de la mort.
Et puis, je sais pas, j'avais 18 ans, j'avais envie de vivre l'aventure. Et là, j'étais bien en panne. Je suis sortie donc pour ma demi-heure. Au lieu d'aller au café, je suis allée dans la maison de ce Jean-Philippe. Il m'avait dit, même si je suis pas là, si tu veux, tu peux venir, il y a un piano. Tu peux venir jouer du piano. Il avait laissé la clé sous le paillasson. J'ai cherché cette maison. Elle était pas très facile à trouver. C'était une maison où il fallait monter des escaliers dans la neige. Et surtout, il fallait passer par une vieille ruine. Et moi, je passais par un passage où il fallait escalader dans la neige. Et il y avait le craquement de la neige. Et c'est marrant parce que ça m'est resté dans la tête, ce bruit de la neige qui s'écrase. Comme si c'était vraiment la liberté. Et puis, tout était beau. Il y avait du soleil, tout était beau. C'était comme au ralenti, le shabadabada. Le shabadabada, c'est par exemple quand on est très très heureux et qu'on court dans la nature ou qu'on marche dans la nature et que tout va bien, quoi. Tout va bien. Ça peut pas être mieux. Et c'était la liberté. La liberté. Tout était beau. Je suis arrivée à cette maison, j'ai pas souvenir qu'il était là. Donc le soir, il est rentré. Il m'a trouvé. Il a été surpris. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, j'ai pas voulu rentrer. Il m'a dit, on en reparlera demain, va te coucher. Bon, je suis allée me coucher. En fait, plus tard, j'ai appris que c'était un ingénieur qui a fait un burn-out et qui a tout envoyé balader, qui s'est donné un an de pause. Il refusait de rentrer dans le système. Donc pour moi, c'était une opportunité incroyable, parce que moi aussi, je refusais de rentrer dans le système. Et surtout, cette liberté qu'il m'a octroyée. Il m'a ouvert sa porte, il m'a rien demandé. C'est quand même rare. J'étais enfuie du sanatorium. Lui, il aurait pu être soupçonné de détournement de mineur. C'était un gros risque qu'il prenait. Pourquoi il l'a pris, je sais pas. Le lendemain matin, il m'a dit « il faut prévenir tes parents ». J'ai dit « non, je préviens pas mes parents. De toute façon, ils s'en foutent ». Il a joué le jeu. Il a prévenu mes parents que 3 jours après. Il me semble que ma mère est venue essayer de me reprendre. Dans les 3-4 jours, peut-être une semaine après. J'ai pas souvenir de l'avoir vue parce que je me suis échappée de la maison pour ne pas la voir quand elle est venue. Mes parents m'ont pas manqué. Personne m'a manqué, en fait. J'ai vécu dans un autre monde. J'avais laissé le vrai monde et le temps s'écoulait, mais je le voyais pas s'écouler. Je suis restée jusqu'au mois de juin, dans la petite maison. Cette maladie faisait que je ne pouvais pas sortir beaucoup. J'allais entre ma chambre, la cuisine et le salon. Donc c'était une fugue dans une maison. Mais cette maison était à la montagne, et l'air était pur, et la nature était belle. Et quand je sortais, j'étais libre. On a chacun notre chambre et on mangeait de temps en temps ensemble, pas tout le temps. En fait, on parlait pas beaucoup. C'était genre 3 mots. Bonjour. Ça va? Ça va. T'as mangé? Oui. Puis voilà.
Il n'avait pas envie de parler, j'avais pas envie de parler. Et puis petit à petit, on a un petit peu discuté, on a un petit peu parlé, et puis après, je pense qu'il est tombé un peu amoureux de moi. Et moi, je pense que je l'aimais bien. Et on a eu une aventure au bout de, je sais pas, vers le mois d'avril. Et un jour, en juin, je lui ai dit, il faut que je rentre. Il faut que je me prépare pour passer mes examens. Il m'a dit, je sais pas si on va se revoir. Ça sera peut-être plus pareil. Je lui ai dit, je sais pas. On verra bien. Peut-être 15 jours après, Jean-Philippe est venu me revoir à Nice. Et là, donc, il n'était plus dans son élément. Il n'avait plus sa combinaison de ski, il n'avait plus les montagnes derrière lui, il n'avait plus ses boots, c'était plus le montagnard. Il m'a dit, je suis venue te voir parce que on va pas se quitter comme ça. Et je lui ai dit, je sais pas. Je peux pas rester avec toi, c'est plus pareil ici. Et il m'a dit, si tu changes d'avis, tu sais où j'habite. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Trois Fugues, un reportage de Léa Minot réalisé par Marie Placé avec un coup de main de François Kona qui est diffusé pour la première fois le 11 novembre 2015. Merci aux Mama Shelter à Paris, à Marianne, à Marie-Valentine, à Laurent et à Marie. Merci également à Philippine Lebret, Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, Céline Autin, c'est notre stagiaire. Ne manquez pas ce week-end deux histoires particulières en deux épisodes, samedi et dimanche à 13h30, de 13h30 à 14h. Ça s'appelle Astre Noir par Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. Et il sera question de Marguerite Duras et de Bernard-Marie Coltès, deux écrivains face à deux assassins.